France Inter.
Aujourd'hui, autoroute A69, l'autre voie écologique, racontée par...
Marie-Odile Marché, membre du collectif La Voie est libre.
Et Karim Layani, paysagiste et urbaniste.
France Inter, la Terre au carré, Mathieu Vidard.
Dès que les humains dépendent du transport non seulement pour des voyages de plusieurs jours, mais aussi pour les trajets quotidiens, les contradictions entre justice sociale et motorisation, entre mouvement effectif et vitesse élevée, entre liberté individuelle et itinéraire obligé apparaissent en toute clarté. La dépendance forcée à l'égard de l'automobile, déniée à une société de vivants, cette mobilité dont la mécanisation des transports était le but premier, l'esclavage de la circulation commence. Vite expédié, sans cesse véhiculé, l'humain ne peut plus marcher, cheminer, vagabonder, flâner, aller à l'aventure ou en pèlerinage. L'industrie du transport façonne son produit, l'usager. Chassé du monde où les personnes sont douées d'autonomie, il a perdu aussi l'impression de se trouver au centre du monde. Il a conscience de manquer de plus en plus de temps, bien qu'il utilise chaque jour la voiture, le train, l'autobus, le métro et l'ascenseur. Le tout pour franchir en moyenne 30 km, souvent dans un rayon de moins de 10 km. Le sol se dérobe sous ses pieds. Il est cloué à la roue, qu'il prenne le métro ou l'avion, il a toujours le sentiment d'avancer moins vite et moins bien que les autres, et il est jaloux des raccourcis qu'empruntent les privilégiés pour échapper à l'exaspération créée par la circulation. Enchaîné à l'horreur de son train de banlieue, il rêve d'avoir une auto, épuisé par les embouteillages aux heures de pointe, il envie le riche qui se déplace à contresens, l'usager se trouve tout au bas de l'échelle où sans cesse augmente l'inégalité, le manque de temps et sa propre impuissance. Mais pour y mettre fin, il s'accroche à l'espoir fou d'obtenir plus de la même chose, une circulation améliorée par des transports plus rapides. Il réclame des améliorations techniques des véhicules, des voies de circulation et des horaires, ou bien il appelle de ses voeux une révolution qui organise des transports publics rapides en nationalisant les moyens de transport. Jamais il ne calcule le prix qui lui en coûtera pour être ainsi véhiculé dans un avenir meilleur. Il oublie que de toute accélération supplémentaire, il paiera lui-même la facture sous forme d'impôts directs ou de taxes multiples. Il ne mesure pas le coût indirect du remplacement des voitures privées par des transports publics aussi rapides. Il est incapable d'imaginer les avantages apportés par l'abandon de l'automobile et le recours à la force musculaire de chacun. Ivan Illich, extrait du livre « Énergie et équité » en 1973. Marie-Odile Marché et Karim Layani, bonjour à tous les deux.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. En février dernier, le tribunal administratif de Toulouse suspendait les travaux de l'autoroute A69 entre Castres et Toulouse. Le 24 mars, l'État faisait appel de cette décision. Karim Layani, que vous inspire d'abord ce texte du philosophe Ivan Illich sur la vitesse ?
Il m'inspire beaucoup de choses, effectivement. Donc déjà, merci pour ce texte qui résume très bien, qui traduit très bien en fait une partie de la pensée d'Illich sur la vitesse et sa critique de cette société qui cherche à accélérer toujours, sans mesurer les conséquences que ça a sur nos vies quotidiennes et sans que l'on mesure collectivement à quel point cela accroît les inégalités sociales. Et aujourd'hui, en plus, ce que cela accroît la catastrophe écologique. Et donc, ce texte, pour moi, il est fondamental dans le projet qu'on porte, parce que vraiment, il nous a inspirés dans ce projet alternatif.
C'est ça. C'est vraiment, lui, cette écriture, cette pensée qui a nourri, au fond, vous, ce projet alternatif sur le tracé de l'autoroute A69
hein. Tout à fait, parce qu'en fait, Ivan Illich, qui est vraiment un des pères fondateurs de l'écologie politique, il a vraiment... cette pensée qui est assez systémique en fait et qui est vraiment intéressante à étudier parce qu'elle met en relation des choses qu'on ne voit pas de premier abord entre, comme je disais, ces inégalités économiques, la question des infrastructures, la question des coûts de la vitesse et du temps qu'on perd au lieu du temps qu'on nous vend comme du temps gagné. Et donc, à cet égard, il est vraiment au cœur d'une réflexion qu'on peut produire aujourd'hui sur cette question des autoroutes et des infrastructures.
Marie-Odile Marché, vous aussi, vous êtes inspirée par ce texte, vous qui êtes membre actif de ce collectif La Voie est libre.
Absolument, ouais. Puisque en plus j'habite un territoire rural dans lequel on est pieds et poings liés à la voiture parce qu'on ne peut pas se déplacer autrement actuellement, ou très peu. Donc oui, ça résonne complètement.
Je voudrais vous signaler, amis auditrices et auditeurs, que l'émission d'aujourd'hui est dessinée en direct par Tommy, qui va réaliser donc des dessins évidemment en rapport avec les propos de nos invités. Bonjour Tommy.
Bonjour Mathieu, bonjour à tous.
Ça va, vous avez bien installé votre matériel?
C'est parfait.
Petite caméra au-dessus de vos stylos.
Caméra, un pinceau, une feuille.
Écran d'ordinateur. Et tout ça, évidemment, vous allez pouvoir le retrouver au fil de l'émission. Si vous vous connectez à la story Instagram de La Terre au Carré, vous allez pouvoir découvrir donc tous les dessins de Tommy, et puis ensuite on aura une vidéo qui résumera justement le thème que nous abordons aujourd'hui. Marie-Odile Marché, vous appartenez donc à ce collectif La Voie est libre, qui s'est opposé donc au projet d'autoroute A69, qui a porté plainte contre l'État français pour manquement répété à la législation européenne sur le climat. Mm-hmm. Comment d'abord est né ce collectif? À quel moment chronologique pour comprendre les choses?
Alors, l'opposition à l'autoroute A69, elle dure depuis des décennies. Il y a eu plusieurs collectifs avant La Voie est libre. Mais la lutte s'est intensifiée en 2023 au moment du démarrage du chantier, des premiers abattages, de la pression policière intense. Donc, c'est vraiment en 2022-2023 que les choses se sont structurées autour de La Voie est libre, mais avec plusieurs autres collectifs, car il y a 13 associations qui portent plainte aussi, qui ont porté le recours gagné au tribunal administratif. 13.
Ouais, donc avec des habitants du territoire, entre Toulouse et Castres.
Voilà, on a un collectif citoyen, d'habitants, intergénérationnel, représentant beaucoup de... Enfin, toute la société, il y a des artistes, des ingénieurs, des agriculteurs, des ouvriers. Voilà, et notre but, c'est de sauver notre environnement.
C'était ça, le mot d'ordre, s'il fallait résumer, au fond, oui, effectivement, cette mobilisation. Qu'est-ce que vous avez dénoncé, au fond, depuis le début?
Ben, les axes majeurs, c'est l'iniquité sociale, un peu ce que disait votre texte au départ, ouais. C'est-à-dire que on va dégrader une route nationale qui fait bien son job par une autoroute payante très chère, qui va spolier des parties de cette route d'ailleurs. Donc l'iniquité sociale, la dégradation de l'environnement, la spoliation d'eau aussi, et puis ça pénalise énormément le territoire pour faire face au réchauffement climatique, et ça ne nous apporte pas les solutions de mobilité dont nous avons besoin.
Et donc le 27 février dernier, on apprenait la mise à l'arrêt du chantier de la 69. On va écouter cet extrait du journal de France 2.
Les travaux de la 69 vont devoir s'arrêter. Décision du tribunal administratif de Toulouse, le projet est annulé. La 69, 53 km entre Toulouse et Castres, pour permettre de désenclaver le territoire et apporter plus de sécurité selon les porteurs du projet. Des arguments entièrement réfutés par le tribunal. Le projet, dit-il, ne répond pas à un intérêt public majeur.
Qu'est-ce que vous avez ressenti en apprenant cette nouvelle, Marie-Odile Marché? Donc cette annulation, c'est une décision évidemment majeure pour le droit environnemental et pour votre collectif. Quel était votre état d'esprit? Est-ce que d'abord vous y croyez à ce moment-là ou pas, franchement?
On croyait au droit, enfin on savait que le dossier était illégal d'un point de vue du droit environnemental, donc ça on en était vraiment certain, parce qu'il y a des manquements vraiment flagrants et assez énormes. Donc on avait confiance sur ce plan-là, et on a quand même eu un énorme soulagement, beaucoup de joie, puisqu'on attendait ça, et c'était vital pour nous que ce soit arrêté avant que le bitume arrive. Mmh. C'était très très important, donc beaucoup de joie, mais une amertume aussi, puisque le territoire a été abîmé par le début du chantier, malgré nos multiples tentatives de stopper le chantier avec des recours, donc beaucoup d'amertume aussi.
Jamais une infrastructure autoroutière n'avait été stoppée alors que le chantier était en cours. Hein. C'était quand même aussi une première à ce niveau-là. Oui. Donc un succès gigantesque aussi pour la mobilisation. Karim Layani, vous qui êtes donc urbaniste et paysagiste, comment est-ce que vous êtes arrivé dans cette aventure, entre guillemets, du projet alternatif à cette autoroute A69?
Oui, bah alors d'abord, mon engagement dans cette lutte est traduit un attachement profond à ce territoire, en fait. C'est en fait cette route nationale 126 existante entre Toulouse et Castres, c'était vraiment la route de mon enfance où j'allais voir mes grands-parents depuis Toulouse jusqu'à Castres. Et donc, en fait, cette route, quand on prend cette route, on traverse des paysages vraiment magnifiques. Il y a cette vallée du Giroux avec les coteaux du Lauragais, puis on remonte la vallée et hop, on passe de l'autre côté. Et là, on est devant la Montagne Noire et le Cidobre. C'est vraiment un paysage magnifique. magnifique. Et en fait, le jour où il y a eu ces expropriations pour la déclaration d'utilité publique, c'était à la fin de l'année 2022, début 2023. Eh bien, ce qui était un moment très intéressant, c'était un moment de flottement où le chantier n'avait pas démarré et où finalement les expropriations ont commencé sur le tracé, sur les 53 kilomètres. Et c'est là que moi j'ai mesuré l'ampleur du massacre qui allait avoir lieu. C'était un moment à la fois dramatique et aussi, j'ai envie de dire, très poétique et plein d'espoir parce que pendant le printemps qui a suivi, la prairie s'est mise à repousser là où les hommes avaient arrêté d'entretenir le paysage. Et on a vu se déployer en fait de nouvelles forces dans ce paysage. Et c'est un peu de là que part le projet, c'est le point de départ. C'est cette idée que finalement, un autre projet peut-être était possible à cet état. Un autre projet était possible pour notre territoire. Un projet qui parle de mobilité, qui parle de vivant, qui explore de nouveaux imaginaires. Et là, je me suis dit qu'en fait, on ne pouvait pas laisser à la partie adverse le monopole du récit politique sur la question des transports, sur la question des mobilités. Et ça peut, c'est peut-être ça aussi le rôle aujourd'hui d'un paysagiste ou d'un urbaniste. C'est peut-être aussi d'essayer de comprendre ses aspirations et de les retraduire par cet esprit d'imagination qui, en fait, est quand même concret, puisqu'on parle d'un territoire qu'on connaît et avec des habitants qui ont aidé à faire ce projet.
Et alors, c'est vous qui êtes allé vers le collectif. Comment ça s'est passé au niveau de l'embryon de l'idée au départ? Vous avez dit, ben moi, voilà, je suis urbaniste, paysagiste, je vous propose d'y réfléchir, faisons ça ensemble. Comment ça s'est passé?
Oui, alors c'était un peu un pari pour moi, parce qu'en vérité, ce genre de démarche est assez rare dans notre profession. Et donc, je suis allé voir ce collectif, un peu, moi qui n'étais pas nécessairement très engagé, en fait, finalement, dans ces questions de lutte écologiste. Et j'y suis allé, un peu au culot, en allant voir le collectif, en me présentant, en expliquant d'où je venais et ce que je voulais co-construire avec ce collectif d'habitantes et d'habitants. Et ça a été très bien, je crois, reçu. Et donc, on a travaillé tout l'été 2023 à ce projet.
Ouais, et Marie-Odile Marché, votre collectif recherchait justement une proposition alternative ou c'était pas très bien défini, ça, dans les esprits de tout le monde?
Il y avait eu une étude d'aménagement de la route en 2016, portée par 13 mairies, mais qui n'avait pas été entendue par l'État. Et nous, en 2023, quand Karim nous a contactés, en fait, on était surtout accaparés par les premières destructions. C'était un moment de la lutte qui était très dur.
Ouais.
Et quand il nous a proposé ces idées lumineuses, on a foncé, on s'est dit, ça nous a fait beaucoup de bien.
Il y a eu une rencontre, finalement.
Oui, ça nous a fait énormément de bien, à la fois parce qu'on peut se projeter dans quelque chose qui répare et qui régénère, mais aussi parce qu'on était en position de créateur et pas seulement d'opposant. Donc c'était très...
Alors, ce qui est assez incroyable, c'est que l'année dernière, Karim Layani, vous avez reçu le prix du palmarès des jeunes urbanistes pour votre travail sur l'alternative à la 69.
Entre autres, oui.
Entre autres, ironie du sort, ce prix vous a été décerné par le ministère de la Transition écologique, alors que, évidemment, tout le monde le sait, la 69 est défendue, subventionnée par le gouvernement. Donc c'est assez incroyable, en fait, ce qui s'est passé là, dans cette reconnaissance de votre travail.
Oui, j'ai envie de dire, encore un pari gagné, quelque part. J'étais vraiment très heureux de voir cette reconnaissance, parce que, comme je le disais, ce n'est pas une démarche assez courante encore, et donc ce prix, il traduit aussi cette volonté des services de l'État d'essayer de comprendre que finalement, aujourd'hui, il y a des conflits politiques sur l'aménagement du territoire et qu'il y a des nouveaux métiers, peut-être, qui peuvent être là pour faire de la médiation, pour essayer de proposer, justement, de s'engouffrer dans ces brèches-là, politiques, pour proposer autre chose. Mmh. Et donc, pour moi, je trouve que c'est une grande richesse qu'on ait cette visibilité-là, parce qu'on peut développer, sans doute, dans les années qui arrivent, des alternatives sur...
Ouais. C'est une façon de se réconcilier avec les politiques sur ce dossier, Marie-Odile Marché, ou pas?
On le souhaite très fort.
Ouais, ça serait bien qu'ils prennent part peut-être aussi à ce contre-projet.
Oui, et puis aussi ce que je voulais dire, c'est que l'État, c'est pas une structure monolithique. Il y a dans l'État des personnes qui sont vraiment aux avant-gardes aussi, qui regardent ce qui se passe dans les services de l'État, et qui et en fait la situation sur la 69 aujourd'hui vraiment est traduite ce conflit qui montre que on est aussi aux avant-gardes de quelque chose.
Allez, on va voir avec vous dans un instant quelles sont évidemment les grandes lignes de ce projet alternatif à la 69, qui n'est pour l'instant qu'un projet théorique, écrit, dessiné, mais qui peut-être justement pourra avoir un avenir. On va le voir ensemble. Et puis, je vous invite également à nous retrouver sur la story Instagram de l'émission pour découvrir les dessins de Tommy réalisés en direct pendant cette discussion autour de la 69.
La Terre au carré. Mathieu Vidard sur France Inter.
C'était une belle aventure. Là, on est arrivé sur la fin du chantier, donc c'est un peu dommage de l'arrêter maintenant.
Alors, industriels, élus et chefs d'entreprise vont se mobiliser dans les prochains jours, comme le souligne Guy Bousquet, président de Via 81, association qui milite pour la 69.
On a perdu une bataille, mais on n'a pas perdu la guerre. On va continuer de se battre juridiquement. Le sud du Tarn va se révolter.
Et ce responsable réfléchit avec ses troupes maintenant aux meilleurs moyens de se faire entendre.
BFM TV, c'était le 28 février dernier autour de l'A69, car effectivement, il y a aussi des personnes qui sont favorables à cette autoroute. Marie-Odile Marché, vous qui êtes membre du collectif La Voie est libre, et Karim Layani, paysagiste urbaniste. Est-ce que vous le prenez en compte, ça ? Est-ce qu'il y a des échanges, justement, entre les différents collectifs, avec ceux qui s'opposent, comme vous, au projet, et ceux qui le défendent ? Est-ce qu'il y a un dialogue possible ou pas ?
Possible certainement, mais pour l'instant on n'a pas vu, malheureusement. On n'a pas été reçu pour discuter, non, et on le regrette parce qu'on aimerait beaucoup échanger, parce que oui, voilà, on pense qu'il y a beaucoup d'idées reçues qui sont pas toujours vraies, par exemple l'enclavement de Castres, par exemple.
Alors cette idée évidemment du désenclavement, elle est un peu centrale d'ailleurs, elle est un peu au cœur aussi de ce projet, puisque cette autoroute, elle a été vendue comme nécessaire au nom du désenclavement. C'est un des arguments d'ailleurs que vous avez dénoncé avec La Voie libre.
Oui, parce que en fait, si on regarde vraiment les chiffres du développement actuel de Castres, on voit qu'ils sont plutôt bons comparés à d'autres villes d'Occitanie. Castres a un taux de chômage inférieur à celui d'Albi, alors qu'Albi a une autoroute. Donc on voit bien que l'état de Castres, il est vraiment pas mal. Il a des équipements tout à fait corrects, un hôpital très réputé, des moyens de transport corrects aussi, avec une route qui fonctionne bien. Oui. Donc le mot enclavé nous paraît excessif. Et trop martelé.
Et pourtant, c'est l'idée qui a été répétée abondamment, en fait. Autour de ça, Karim Layani, il y a cette idée que le désenclavement aussi va produire de la richesse, de la prospérité à la région.
Oui, alors là aussi, c'est une idée fausse. Il n'y a pas de cause à effet entre les autoroutes et la richesse induite. Ça, il y a des chercheurs qui l'ont très bien montré. C'est même souvent le contraire. C'est une aspiration qui se passe, une aspiration des richesses vers les grandes villes. Et sur ce désenclavement, ce que je voulais ajouter aussi, c'est que, en fait, la France a le quatrième réseau le plus dense du monde en termes de routes. Et donc, en fait, on peut aller partout aujourd'hui en voiture. On peut même dire qu'il y a un monopole radical de la voiture sur nos déplacements, puisqu'on peut se déplacer absolument partout. Le seul endroit en France métropolitaine où moi j'ai constaté qu'il y a eu un enclavement ces 5 dernières années, c'est la vallée de la Roya. Et c'est au moment où il y a eu des catastrophes climatiques où là, il fallait aller en hélicoptère parce que les routes ont été détruites. Donc, il n'y a pas d'enclavement en réalité de cette région. Et ce qui est intéressant aussi de voir, c'est que depuis 50 ans, sans doute, depuis la période de la désindustrialisation, c'est tout un récit politique qui s'est construit sur cette question du bassin du sud du Tarn qui serait prétendument enclavé à cause du fait que les industries sont parties et qu'elles ont laissé dans le paysage ce paysage de désindustrialisation. Sauf qu'en réalité, les entreprises se sont très bien remis. On a les laboratoires Fabre, on a plein d'autres choses qui font la spécificité économique du sud du Tarn. Et aujourd'hui, le sud du Tarn est très dynamique, en fait. La CCI le dit elle-même, que le sud du Tarn est très dynamique aujourd'hui.
Je voudrais juste signaler ce dessin de Tommy, qui était avec nous, qui dessine en direct l'émission. On voit un petit bonhomme dans une roue, tel un hamster dans une cage, avec comme légende la 69 vite. Dessin que vous pouvez découvrir, bien sûr, en story Instagram. Karim Layani, votre projet, donc, Une autre voie, quelle est sa philosophie pour comprendre ce que vous avez imaginé à la place, donc, de la 69, puisqu'il s'agit d'un contre-projet? Comment on le résume? Qu'est-ce que vous avez envie de valoriser dans cette idée?
Oui, alors déjà, ce qu'il faut bien prendre en compte, c'est que notre projet, c'est un projet de territoire. C'est-à-dire que c'est pas juste un projet qui répond à une question de se déplacer plus vite entre deux grands bassins d'emploi. C'est un projet qui radicalement veut changer, qui pointe le doigt nos modes de vie et qui essaye de changer radicalement cela en trois volets. Le premier, effectivement, ce sont les mobilités, essayer d'inventer des mobilités beaucoup plus collectives, plus durables, travailler sur l'intermodalité, etc. Le second point de ce plan, c'est un rééquilibrage économique. On a parlé de la concentration des richesses et des flux entre deux grands bassins d'emploi. Comment justement on invente aujourd'hui une économie qui se relocalise sur nos territoires et non pas qui est dans une logique de dépendance à des grands flux et à des grandes ressources, et comment on invente cette économie finalement qui valorise les ressources locales et donc qui essaie de sortir de ce concept de la métropolisation.
Alors sur la mobilité, je voudrais qu'on y revienne un instant, parce qu'il y a, trois choses en fait intéressantes. Il y a cette nationale 126 qui existe déjà, mais qui nécessiterait quand même d'être optimisée, sécurisée, c'est ce que vous dites dans le projet ?
Alors oui, ce qu'on dit, c'est qu'on pense que cette nationale, elle a déjà beaucoup d'atouts et qu'il faut sans doute l'adapter à certains endroits. Et ça, c'est encore une question qu'il faut mener démocratiquement, hein, avec les habitantes, les habitants, pour voir où est-ce qu'on peut l'améliorer si c'est nécessaire. Surtout, nous, c'est vraiment cette route dont on part de cette route pour vraiment en faire la valorisation du territoire avec une route qui va finalement changer de philosophie, une route qui va parler des transports en commun, qui va replacer la question des mobilités collectives sur le territoire et de l'intermodalité avec d'autres modes de transport. Parce que...
Pour bien comprendre, Karim Leghani, donc il y a cette nationale qui existe déjà, il y a aujourd'hui le terrassement de la 69 qui a été tracé, qui existe déjà, il n'y a pas de bitume mais il y a un terrassement. Votre projet, il repose sur le terrassement ou sur la nationale, pour qu'on comprenne bien en fait ce qui peut se passer dans ce contre-projet ?
Ça dépend effectivement des volets du projet. Nous, ce qu'on dit, c'est que pour la partie de la route, le volet de la route, nous repartons de la nationale existante. Ce que l'on dit aussi, c'est que ce linéaire de 53 km, c'est 500 hectares de terre, 450. Mmh. Et sur ces 400 hectares, on peut inventer sans doute un projet à la fois de mobilité, d'économie agricole, sociale, etc., qui prend appui sur ce foncier-là. C'est ce qui était l'idée initiale de notre projet.
Il y a combien d'hectares d'ailleurs à disposition ?
450 hectares.
Ouais.
Et donc l'idée, ce serait peut-être qu'on puisse à la fois conserver ces terres avec leur vocation agricole et qu'on puisse aussi peut-être tester un système de véloroute qui puisse permettre de faire tous les petits déplacements sur ce territoire, les déplacements de courte distance qui représentent 50% des déplacements de Français, moins de 10 km, qu'on puisse les faire en ruralité. Parce que c'est une question aussi, il y a une demande en ruralité sur ce volet-là. Et donc, nous, on essaie d'y répondre, ce que le projet d'autoroute ne fait pas.
C'est ce que vous disiez, Marie-Odile Marchais, tout à l'heure, c'est qu'il est extrêmement difficile de se passer au fond de sa voiture dans certains territoires comme le vôtre.
Oui, oui, absolument. Il est très dangereux de faire du vélo, puisque les campagnes, c'est les grandes oubliées des plans vélo. Mm-hmm. Les transports en commun, ils ne sont vraiment pas suffisants, quoi. Ils passent au ras du village chez nous, ils ne s'arrêtent pas dans le village. Les trains, je crois qu'ils sont loin de chez moi, mais ils n'ont pas une cadence suffisante. Donc, il y a beaucoup à faire.
C'est ça.
La mobilité
donc
collective.
Il y a cette idée de véloroute nationale, hein, qui est vraiment dans le projet, et puis aussi parallèlement réaménager le ferroviaire, c'est-à-dire en donnant la possibilité aussi aux gens de la région de pouvoir des trains plus régulièrement.
Tout à fait.
Parce qu'il y a un enjeu aussi de proposition là-dessus.
Tout à fait. Donc ça, c'est le troisième plan du volet mobilité. Il y a une ligne existante, monorail, entre Toulouse, Castres et Mazamet, qui a été assez dépréciée ces dernières années, et que nous, on propose de réinvestir vraiment, que la région, que l'État puisse mettre des moyens, de sorte à ce qu'on ait un train à la demi-heure. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'on s'est rendu compte, en économie des transports, que pour l'usager, une alternative ferroviaire, une alternative en transport en commun, elle se déclenche quand il y a cette certitude, cette fiabilité qu'on puisse avoir une alternative toutes les 30 minutes, une desserte toutes les 30 minutes. Et donc nous, on propose de réaménager, encore une fois en partant de l'existant, la voie ferrée. Il suffirait de rajouter 8 points de croisement pour que le cadencement des trains se fasse de manière très régulière. Et là, on aurait finalement le moyen de transport le plus performant qui permette de relier les centres des deux villes en un peu plus d'une heure. Sachant qu'à Toulouse, on est en train de construire une troisième ligne de métro qui va desservir la métropole. Et donc finalement, ça va être une solution très efficiente.
Marie-Odile Marchais.
Oui, en sachant qu'il y a eu une étude vraiment très détaillée de l'amélioration de cette voie ferrée, et avec un chiffrage très précis, des ouvrages très précis. Donc c'est vraiment, c'est abouti.
Est-ce que tout ce qui a été détruit pour le chantier de la 69 aujourd'hui est encore réversible ?
Absolument.
Parce qu'on l'a dit, il n'y a pas de béton encore, hein, c'est que du terrassement, mais il y a des ouvrages d'art quand même qui ont été construits. Comment on fait avec tout ça alors finalement ?
Alors l'état actuel, d'après nos experts qui surveillent le chantier, c'est que 50% du tracé est terrassé. C'est-à-dire ce sont des terres compactées et chaulées. Donc 50%, c'est notre estimation. Après, il y a quelques ouvrages d'art en béton et bitume qui sont comme des ponts pour traverser l'autoroute. Mais pour ce qui concerne le tracé lui-même, on a consulté des pédologues, hydrologues qui sont dans nos rangs. Et c'est réversible, évidemment pas en un an ou six mois, mais en quelques années, on peut réamender la terre et la faire redevenir vivante. Il y a déjà d'ailleurs un plan sol au niveau Union européenne.
Oui.
Et se saisir de cette régénération des terres, ça pourrait être quelque chose d'exemplaire pour les élus.
On va y revenir dans un instant avec votre projet alternatif. Qu'est-ce qui pourrait se passer maintenant, même si l'État a quand même fait appel, donc il va y avoir certainement encore d'autres rebondissements. Et puis, passer par la story Instagram de l'émission pour voir les dessins réalisés en direct par Tommy autour de ce dossier à 69.
Mathieu Vidard, la Terre au carré.
En bordure de la construction de la 69 sur à peu près une trentaine de kilomètres. Et donc on va remonter ce petit fossé qui vient de recreuser là. Alors là on va commencer à voir les matières en suspension. Et attention, ils n'ont pas jugé utile de mettre une retenue juste derrière pour pouvoir nettoyer. Et qu'est-ce qu'on voit à la sortie du filtre? De la pollution, une belle pollution à la laitance de béton. Alors là c'est complètement interdit et c'est passible d'amende. Sauf que à la première pluie, tout va partir dans le giron. Et ni vu ni connu.
Voilà, ça c'était le 8 février dernier, un de vos camarades de La Voix est libre, Marie-Odile Marché. La laitance de béton, qu'est-ce que c'est exactement pour qu'on comprenne bien?
Alors moi je ne suis pas spécialiste en béton, mais c'est quelque chose qui coule quand on coule le béton et qu'on devrait normalement retenir dans un bassin de rétention. Or là, ce qui a été constaté, c'est souvent que ça s'échappe dans le milieu naturel parce que les choses ne sont pas faites dans les règles. Et d'ailleurs, il y a de nombreux rapports en manquement qui ont été délivrés par la préfecture sur le chantier et des mises en demeure. Et un dossier juridique là-dessus aussi.
Karim Layani, vous qui êtes donc urbaniste, paysagiste et qui avait imaginé un contre-projet à la 69, l'autre voie, est-ce qu'au fond, quand même, le projet le plus écologique n'aurait pas été de laisser la nature reprendre ses droits? Certains scientifiques le préconise. Quel est votre point de vue, vous, là-dessus?
Alors, si on regarde avec les hydrologues et des naturalistes, etc., l'état aujourd'hui du chantier, on se rend compte qu'effectivement, on ne peut pas laisser simplement la nature reprendre ses droits. Et ça montre bien à quel point une infrastructure routière, comme ça, qu'on trace une ligne droite dans le paysage, sans respecter la géographie, les cycles des milieux habités, etc., est une catastrophe écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un territoire qui est bouleversé, avec des tranchées qui séparent des parties de villages en deux. Les bassins versants, les champs d'expansion des crues ne peuvent pas s'étendre correctement. Donc on ne peut pas laisser en l'état, effectivement, le territoire a été trop bouleversé. Il va falloir remettre des choses en état et puis ensuite, effectivement, faire confiance aux vivants, à une agriculture sans doute régénérative, à toutes ces sciences des sols qui en fait peuvent être une opportunité. Une opportunité pour l'État de véritablement acquérir des expertises dans les dépollutions, dans la remise en état de cet héritage en fait, de toutes ces époques industrielles, etc.
Votre projet, ça passe par la replantation d'arbres, mais pas seulement. Il y a aussi tout un travail autour de la biodiversité, sur les oiseaux par exemple.
Tout à fait, oui.
C'est ce que vous défendez, sur l'agroécologie aussi.
Ça nous tenait à cœur parce qu'en fait ce projet, comme je disais, il tente vraiment de s'inscrire dans les réalités du territoire. Et une de ces réalités, c'est que il y a une base ornithologique en fait, une zone naturelle qui est complètement ravagée par le chantier d'autoroute où on trouve beaucoup d'oiseaux. Et nous on voulait vraiment avoir cet objectif que dans notre projet on ait plus 30% d'oiseaux, c'est-à-dire renverser les dynamiques d'effondrement d'espèces. Ça devrait être un objectif de politique publique finalement.
Vous avez aussi comme projet de replanter du bocage, bocage tarnais, pour minimiser les vagues de chaleur dans une région qui est quand même, avec les projections, on est à 50 degrés dans les décennies qui viennent, ralentir le cycle de l'eau aussi, Marie-Odile Marché.
Oui, il y aura un travail à faire là-dessus, sur la restauration des continuités hydrauliques qui ont été très mises à mal et avec l'assèchement de certaines zones qui est redoutée.
Voilà, je voudrais vous faire réagir à ce dessin de Tommy en direct qui nous dessine sur l'émission. Voilà, on parlait d'ouvrage d'art, donc on voit un bonhomme qui est en train d'admirer une espèce de bout d'autoroute comme ça tout seul.
C'est vrai que le mot est un peu usurpé.
Voilà, et qui dit qu'est-ce que c'est beau. Si vous souhaitez découvrir ce dessin, vous allez sur la story Instagram de l'émission. Qu'est-ce qu'il vous reste à faire aujourd'hui, finalement, Marie-Odile Marché, à la fois avec le collectif et puis Karim Layani avec le contre-projet? Parce que, encore une fois, l'État a fait appel, donc il va y avoir d'autres décisions qui vont être rendues. Donc rien n'est gravé dans le marbre, en tout cas pour l'instant. Le projet pourrait reprendre. S'il ne reprend pas, alors qu'est-ce que vous allez faire? Parce que ce projet-là, il suscite aussi une discussion publique. Il y a une réflexion aussi avec les citoyens et les citoyennes.
Oui, alors là, on en est aux prémices, mais c'est l'état actuel du chantier. Et ce qu'il faut faire, c'est responsabilité pleine de l'État. C'est lui qui nous a mis dans cette situation, en quelque sorte, en s'acharnant à vouloir faire passer ce projet en force. Mm-hmm. Donc c'est la responsabilité de l'État, maintenant, de tourner la page. Et on regrette amèrement qu'il continue la course juridique, puisqu'on sait que les points d'illégalité de ce chantier sont vraiment énormes et avérés. Donc on préférerait que l'État se prenne acte de la décision du tribunal, voit à quel point la loi environnementale est importante à respecter. Et donc, on aimerait qu'il se saisisse d'une autre voie. Donc, on ne pourra pas faire sans l'État. Mmh. Et il faudra que l'État...
Sauf que pour l'instant, le ministre des Transports, par exemple, Philippe Tabarot, a jugé ubuesque qu'un chantier avancé aux deux tiers soit arrêté du jour au lendemain. Donc, il défend encore ce projet. Et c'est
exactement.
Et c'est aussi l'initiative de l'État, c'est de poursuivre.
Voilà, le passage en force tente de continuer, mais la loi environnementale, elle est ce qu'elle est. Elle est là pour nous protéger, elle doit être respectée. Donc, on espère que l'État va revenir à la raison, et qu'il se saisira de ce projet et qu'il instaurera une concertation véritablement démocratique et citoyenne avec les agriculteurs, les scientifiques.
Est-ce que ça, c'est pas aussi utopique, finalement, que le contre-projet de Karim Layani, de se dire que l'État pourrait revenir sur sa décision ?
Écoutez, moi je pense pas, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu l'état de la route actuelle de la Nationale et le chantier arrêté, si la décision de justice nous est favorable jusqu'à la fin, l'État va devoir prendre ses responsabilités, on ne peut pas laisser un territoire ainsi dévasté, et donc se posera la question d'une médiation, nécessairement, et surtout, et c'est là où nous on voulait insister, de cette réparation de la fracture, qui n'est pas juste une fracture entre le territoire, c'est une fracture vraiment démocratique, une fracture aussi entre les gens. Et je vais vous donner un exemple, c'est le barrage de Sivens. Quand l'État a décidé d'arrêter ce barrage, il a mis en place une médiation qui est toujours en cours aujourd'hui pour un plan de gestion de l'eau à l'échelle du bassin versant autour de Sivens, qui met autour de la table aujourd'hui les agriculteurs, les collectifs qui étaient opposés. Et donc c'est le rôle de l'État d'essayer aussi de recoudre cette fracture démocratique, parce qu'on ne va pas continuer comme ça à s'opposer les uns les autres. Il faut aussi qu'on avance ensemble dans l'intérêt collectif.
Karim Layani, ce projet, vous l'avez chiffré, j'imagine ? Il coûterait combien alors ?
Alors, on n'a pas chiffré tous les volets, mais les volets qui nous intéressent le plus, effectivement, c'est le volet de la mobilité.
Oui.
Nous, on avait compté autour de 100 millions d'euros pour l'alternative ferroviaire, et puis ensuite, sans doute, 100 millions d'euros pour à la fois améliorer la route existante et créer cette véloroute.
Oui, donc c'est encore très large, quoi.
C'est large, c'est la fourchette.
C'est encore très, très bien défini. Oui. Allez, on passe aux questions parce qu'elles sont nombreuses. D'abord Laurent qui nous dit: en me rendant ces jours derniers depuis Toulouse jusqu'à Castres par la route, j'ai pu constater l'ampleur colossale des terrassements déjà effectués, le nombre d'ouvrages d'art déjà construits. Vos invités en ont-ils bien conscience? Comme beaucoup d'usagers ou riverains, je me dis qu'il est bien tard pour renoncer à ce projet étant donné le stade avancé des travaux. Marie-Odile Marché.
Oui, alors c'est avancé, c'est ce que je disais. Nous, on estime à 50% et on le regrette aussi. Hein. On a essayé par de multiples voies de faire cesser le chantier. Donc on le regrette aussi, oui, mais c'est pas désespéré, il n'y a pas le bitume.
Monique nous dit: croisons les doigts pour que ça ne puisse pas redémarrer un jour, une honte cette autoroute sur tous les plans, marre de ces GPI qui repartent de plus belle, ces grands projets inutiles. À Montpellier, il existe une lutte contre un contournement ouest qui n'a de sens que celui de permettre une urbanisation encore plus intense. Voilà pour son témoignage. Lucie, moi je voulais juste témoigner du fait que j'ai habité à Castres pendant 2 ans et que j'ai cassé mon contrat de travail et que je suis parti parce que c'était infernal de devoir tout le temps prendre la voiture et de faire des heures et des heures de route pour quoi que ce soit. Je ne comprends pas qu'on s'oppose à un accès plus simple par la route. Donc on voit à quel point ça divise quand même, Karim Layani.
Oui, mais ce que j'ai envie de répondre, c'est: est-ce qu'elle sera prête à payer 17 euros l'aller-retour? C'est ça la vraie question, parce que moi personnellement, par exemple, j'ai pas les moyens de me payer cette route. Donc qui va pouvoir? C'est que les cadres, en fait, peut-être, qui pourront se payer un tel tarif, mais sinon on va devoir travailler plus pour pouvoir se déplacer. C'est ça la réalité, en fait, de ce projet.
Guillaume nous dit: j'ai été amené à survoler cette vilaine cicatrice la semaine dernière et je me suis pris à rêver à ce qu'on pourrait concevoir pour soigner et verdir cette plaie brune si laide au milieu d'un paysage verdi par le printemps et ses récentes pluies. Voilà, un peu de poésie. Est-ce qu'on pourrait utiliser les ponts débutant pour le passage de la faune sauvage comme il en existe déjà, dit Patricia?
Ça fait partie des bonnes idées. Ça fait partie des bonnes idées qui ne manqueront pas de fleurir si on démarre cette consultation citoyenne.
Quelle est la suite du projet alors pour vous ? La lutte continue du côté du collectif ?
Absolument.
Vous maintenez la pression ?
La lutte juridique est plus que jamais actuelle. Hein. On est sûr du bon droit de ce qu'on défend.
Oui.
Donc il y a encore de longs mois de lutte juridique. Et voilà,
Karim Layani, urbaniste paysagiste.
Ben écoutez, nous on attend de voir si la justice confirme un petit peu la tendance actuelle. Et si c'est le cas, nous allons vraiment œuvrer à adapter notre proposition pour vraiment la mettre en débat.
On peut consulter votre projet d'ailleurs sur Internet ?
Tout à fait, il est sur le site de La Voix est libre.
Oui.
Oui, et puis je voulais signaler un premier atelier, Une autre voie, un événement qui s'appelle Les Déroutantes, qui aura lieu du 25 au 27 avril dans le Tarn, à Morin-Scopin. Vous pourrez voir les détails sur lvel.fr.
Très bien, merci beaucoup en tout cas à tous les deux, Marie-Odile Marché et Karim Layani. Tony, merci pour vos dessins. Vous qui avez illustré cette discussion sur la 69, dessins qu'on peut voir en story sur le compte Instagram de l'émission. Et merci beaucoup à Anna Massardier qui a préparé ce dossier. Bon retour donc dans le sud-ouest. Merci.
Merci à vous.